avec le journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Trois jours après un premier oral marathon, Emmanuel Macron retourne sur la scène du grand débat aujourd'hui face à 600 maires rassemblés à Souillac, cité paisible du Lot aux confins de la Dordogne, mais placés pour l'occasion sous très haute sécurité.
Dans votre journal également, une nouvelle mise en examen se profile pour Alexandre Benalla.
Oui, l'ex-chargé de mission de l'Élysée doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction dans une nouvelle affaire, celle de l'usage de ses divers passeports après son limogeage de l'Élysée l'été dernier.
Une nouvelle journée d'audience dans le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles.
Le djihadiste français est accusé d'être l'auteur de la tuerie du musée juif dans la capitale belge. C'était en mai 2014 et pour la première fois ce matin, les jurés ont entendu trois témoins et parties civiles. La Colombie toujours en état de choc après l'attentat à la voiture piégée perpétré hier contre la principale école de police du pays. Attaque qui a fait 21 morts et 68 blessés. Revenu de citoyenneté d'une part et baisse de l'âge de la retraite d'autre part. Hier soir, le gouvernement italien a pris les deux décrets-lois correspondant aux promesses les plus emblématiques des deux formations populistes au pouvoir. Et puis après 4 mois d'intrigue, l'ayant conduit à devoir avaler quelques couleuvres idéologiques, le Premier ministre suédois a été reconduit ce matin à l'issue d'un vote au Parlement. Enfin, dans une vingtaine de minutes, invité de la page Europe du vendredi, Isabelle Jégouzeau, la représentante de la Commission européenne en France. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La planète se réchauffe. Comment on s'y prépare? Votre journée spéciale se poursuit à partir de 12h55 dans la grande table des idées avec les fictions climatiques et cette question posée à nos invités. La littérature peut-elle assurer une fonction d'alerte? Nos invités, justement, l'auteur de bande dessinée visionnaire et prophétique Enki Bilal, le militant essayiste Cyril Dion et la biologiste Anne-Caroline Prévost.
Merci, à tout à l'heure. C'était le 17 février 2017. À l'époque, Emmanuel Macron, en pleine ascension dans les sondages pour la présidentielle, avait défendu devant quelques 500 sympathisants réunis à Souillac un esprit de conquête, d'un optimisme farouche. Alors près de 2 ans plus tard, devenu chef de l'État, Emmanuel Macron de retour sur les rives de la Dordogne, mais en chute libre cette fois-ci dans les sondages, aura certainement à cœur de retrouver l'esprit de cette campagne victorieuse. Cet après-midi, face à 600 maires d'Occitanie, le président de la République affaibli par la crise des gilets jaunes comptera une nouvelle fois sur le fameux grand débat national pour tenter de retisser donc le lien abîmé avec les Français. Alors cet acte 2 de la concertation intervient à la veille de l'acte 10 des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, comme 3 jours plus tôt à Bourtroude, n'ont pas été invités à dialoguer avec le chef de l'État. Le centre-ville de Souillac a d'ailleurs été bouclé pour l'occasion. Le marché a été annulé. Toute manifestation y est strictement interdite, ce qui a le don d'en agacer plus d'un, comme a pu le constater sur place notre envoyée spéciale Rosalie Lafarge.
Les forces de l'ordre sont postées à chaque entrée de la ville, le centre est bouclé, le marché qui met de la ville le vendredi a été annulé et même pour les habitants, il faut montrer patte blanche. On entre dans Souillac qu'avec un laissez-passer, une carte d'identité et un justificatif de domicile.
Il n'y a plus personne, les magasins sont fermés pour la plupart. Souillac est une petite ville tranquille, mais il y a quand même un peu plus de monde, c'est quand même plus vivant. Là, c'est désert.
On ne peut même pas circuler. C'est-à-dire les commerces, ils sont fermés parce que monsieur vient. Là, on est en état de siège, quoi. Dès qu'il arrive quelque part, c'est verrouillé. Donc, c'est qu'il y a un souci.
Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation, mais une partie des Souillagais espère au moins apercevoir le président et tenter de lui faire part de leurs revendications, même si certains d'entre eux n'ont que très peu d'espoir d'être entendus.
De toute façon, il s'en fout de nous. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient voir les élus. Le peuple, il s'en fout, quoi. Il se fait mousser, il vient faire son show, comme il fait d'habitude.
Où est le débat? Il n'y a pas de débat.
On ne l'intéresse pas. Dans tous ses discours, il y a toujours une petite phrase déplaisante pour le peuple.
Il pense parisien, lui, il ne se rend pas compte les petites communes et tout ça, il ne se rend pas compte.
Mais le maire sans étiquette de Souillac, Jean-Michel Sansfourche, promet de porter cette voix, la voix du peuple, jusqu'au président.
Le but de la réunion du grand débat, c'est que nous, les élus, on soit la courroie de transmission avec l'exécutif. Donc, chaque maire va avoir le cahier de doléances et le remettre au président ou au moins à son équipe. Certaines personnes vont prendre la parole et tout. Et là, on va véhiculer le message.
Et l'élu s'engage à faire dès son discours d'introduction face à Emmanuel Macron la synthèse des revendications des Gilets jaunes de sa commune.
À l'origine d'une tempête politique cet été, après avoir été identifié en train d'interpeller violemment des manifestants à Paris, le 1er mai, l'ancien homme de confiance d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été déféré ce matin au parquet de Paris afin d'être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors l'information judiciaire qui a été ouverte ce matin concerne cette fois-ci l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques.
Le parquet qui avait lancé une enquête préliminaire le 29 décembre dernier, il a donc ouvert ce matin une information judiciaire. C'est à présent le juge d'instruction qui a entre ses mains le dossier avec plusieurs motifs de poursuite potentiels à l'encontre d'Alexandre Benalla. D'abord l'utilisation de passeports diplomatiques pour des voyages d'affaires après son licenciement de l'Elysée. Des passeports dont il s'est servi une vingtaine de fois entre le mois d'août et le mois de décembre d'après les récentes révélations devant la commission sénatoriale de Patrick Strauda, le directeur de cabinet de l'Elysée. Le parquet requiert donc la mise en examen d'Alexandre Benalla pour abus de confiance et usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle. Des passeports qu'Alexandre Benalla a restitués il y a une dizaine de jours. Il lui était demandé depuis fin juillet. Mais ce n'est pas le seul volet de cette affaire de passeport. Des soupçons de falsification pèsent également contre Alexandre Benalla. Il aurait pu falsifier un document de la présidence pour l'obtention de l'un de ses passeports, d'après Patrick Strauda. Les services de l'Elysée en ont informé le parquet juste avant l'audition de Patrick Strauda devant la commission. Le parquet a donc décidé dans la foulée mercredi d'élargir l'enquête ouverte, cette fois aux infractions de faux, usage de faux et obtention indue d'un document administratif. Et c'est maintenant au juge d'instruction qu'appartient la décision de mise en examen d'Alexandre Benalla.
Merci Fiona Mogadam. Et décidément, les affaires dans lesquelles apparaît le nom d'Emmanuel Macron se multiplient. Hier, le député Les Républicains Olivier Marleix a saisi la justice afin d'enquêter sur les circonstances de la vente du pôle énergie d'Alstom à l'américain General Electric, c'était en 2014. L'ex-président de la commission d'enquête à l'Assemblée sur la politique industrielle de la France s'interroge notamment sur le rôle joué par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Dans une lettre adressée au procureur de la République, il émet en l'occurrence l'hypothèse que le système mis en place dans le cadre de ces cessions aurait pu bénéficier à terme à l'actuel président de la République pendant sa campagne. Après avoir entendu l'accusation détaillée deux jours durant les preuves contre lui, le djihadiste français Mehdine Emouche, jugé aux assises de Bruxelles pour 4 assassinats au musée juif de la capitale, est confronté depuis ce matin et pour la première fois aux proches des victimes. Une audience marquée également par la diffusion des images de la tuerie. 82 secondes d'une rare cruauté durant lesquelles on voit un homme procéder froidement à l'exécution d'un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé du musée. Compte rendu d'audience ce matin signé de notre envoyé spécial. Spécial Antoine Marette.
Premier témoignage, celui de la mère de l'une des 4 victimes. Alexandre Strens était employé au musée juif, 7e d'une famille de 8 enfants originaires du Maroc. Sa mère le décrit comme bon élève, courageux et travailleur. Le 24 mai, il est blessé dans l'attaque et décède à l'hôpital. Elle a le temps de lui glisser quelques mots alors qu'il est plongé dans le coma. Ta petite princesse t'embrasse, la justice va trouver qui a fait ça. Je lui ai parlé du côté gauche, car la balle était rentrée du côté droit, précise cette mère courage qui ajoute « Je veux que justice soit faite pour Alexandre et j'ai confiance dans la justice ». Arrive Clara Bileque Villalobos, une artiste chilienne de 81 ans. Elle était dans le musée au moment de l'attaque pour voir l'exposition d'une amie. Elle entend les coups de feu, mais ne comprend pas tout de suite la gravité des événements. Elle est retenue dans le musée par la police jusqu'à 22h30. Depuis le drame, elle est suivie par un psychologue, prend un traitement, elle souffre d'un syndrome post-traumatique. « Ma vie est suspendue à quelque chose d'inachevé. Ma vie a été arrêtée », souffle-t-elle, la voix étranglée par des sanglots. Philippe Blandin, 82 ans, président du musée juif de Belgique. Il n'était pas présent au moment de l'attaque. Il évoque les deux victimes qui travaillaient au musée. Dominique Sabrier, une femme intelligente, cultivée. Elle avait frappé à notre porte après son arrivée à Bruxelles pour devenir bénévole à l'accueil. C'était un moyen pour elle de reprendre contact avec sa judéité. Quant à Alexandre Strens, recruté comme salarié à l'accueil, Philippe Blandin explique qu'il a tout de suite été séduit par sa beauté, sa gentillesse et sa franchise. Philippe Blandin partage avec le tribunal sa sidération. « Nous n'avions jamais reçu aucune menace, il n'y avait jamais eu aucun graffiti antisémite. » Ce 24 mai a été un éclat de tonnerre pour nous.
Nissan et Mitsubishi envisageraient de réclamer des indemnités à Carlos Ghosn. Une enquête menée par les deux firmes japonaises a permis d'établir que l'ex-président avait indûment reçu une rémunération de près de 8 millions d'euros par une structure conjointe aux deux constructeurs. De son côté, Carlos Ghosn, en détention depuis le 19 novembre dernier, devrait déposer aujourd'hui un nouveau recours auprès de la justice japonaise pour tenter d'obtenir sa libération sous caution. En Colombie, 3 jours de deuil national ont été décrétés après l'attentat à la voiture piégée hier qui a fait 21 morts et 65 blessés. L'attaque perpétrée dans l'enceinte de l'école de la police nationale à Bogota est la plus meurtrière depuis 2003 dans la capitale. Elle n'a pour l'heure pas été revendiquée. Il faut dire que c'est assez rarement le cas en Colombie, pourtant frappée par plus d'un demi-siècle de conflits armés. Plusieurs pistes toutefois semblent privilégiées. On citera notamment la dissidence des FARC, le cartel du clan du Golfe, la plus grosse organisation exportatrice de cocaïne du pays, ou bien certains secteurs de l'extrême droite. Mais c'est surtout en direction de l'ELN, l'armée de libération nationale, que les autorités semblent vouloir diriger leur enquête. Il faut dire que le président au pouvoir depuis l'été dernier a particulièrement durci les conditions de reprise des négociations de paix avec cette guérilla d'obédience guévariste toujours active. Quoi qu'il en soit, et ce matin encore, Olivier Poujade, la Colombie va donc se réveiller sous le choc.
Le pays n'avait pas été confronté à un acte d'une telle violence depuis 2003. Ensuite, le mode opératoire de ce misérable acte terroriste, comme l'a qualifié le président Iván Duque, est totalement inédit dans l'histoire colombienne. Un homme, une voiture piégée, chargée d'une vingtaine de kilos d'explosifs, la Colombie n'avait jamais connu d'attentat suicide jusqu'ici. Il y a enfin la cible, une école de cadets de la police, de jeunes agents des forces publiques, c'est autrement dit l'État colombien qui a été visé hier. Un coup porté au fragile processus de paix signé en 2016 avec les FARC. Pas de revendication pour l'instant, mais les autorités publiques soupçonnent à demi-mot l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, groupe avec lequel les négociations de paix sont au point mort depuis l'arrivée du nouveau président. Il n'y a pour l'instant aucune preuve tangible, mais d'après Jacobo Grajales, maître de conférence à l'Université de Lille, l'attentat d'hier aura forcément des conséquences politiques.
C'est préoccupant parce que cet attentat pourrait être utilisé par une partie de la droite conservatrice colombienne pour soutenir des mesures sécuritaires allant dans le sens d'une limitation des droits individuels, des choses qu'on a connues déjà en Colombie et qui sont tout à fait dans l'agenda politique de ces secteurs-là.
Le propriétaire de la voiture piégée était certes originaire d'Arauca, l'un des fiefs de l'ELN, mais d'autres groupes armés sont en mesure de mettre sur pied une telle opération. Le clan du Golfe, puissant cartel d'exportation de cocaïne, ou encore des organisations dissidentes des FARC. Les pistes sont multiples et l'impact est déjà là. Cet attentat vient brutalement rompre l'espoir d'une paix durable en Colombie.
Déclenchées il y a un mois, les manifestations au Soudan contre la hausse du prix du pain se sont transformées depuis en grand rassemblement appelant au départ du président Omar el-Béchir, demande catégoriquement rejetée par le général septuagénaire accroché au siège qu'il occupe depuis 30 ans à la faveur d'un coup d'état soutenu par les islamistes. Hier, 2 personnes, un médecin et un enfant, ont encore été tués lors d'une nouvelle manifestation portant à au moins 26 le nombre officiel de morts depuis le début du mouvement. Après avoir fait part hier soir de ces doutes sérieux quant aux résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'Union africaine a demandé de suspendre la proclamation des résultats définitifs attendus aujourd'hui. C'est l'épilogue d'une crise institutionnelle inédite qui aura duré 4 mois. Ce matin, la Chambre unique du Parlement de Suède a entériné la nomination au poste de Premier ministre du social-démocrate Stefan Löfven, lequel, au prix d'importantes concessions politiques, sera parvenu à neutraliser l'extrême droite et ainsi sauver l'un des derniers gouvernements de centre-gauche en Europe. Les précisions à Malmö de notre correspondante Anne-Françoise Hiver.
La fin d'un système de blocs, un bouleversement de l'échiquier politique. Aucun superlatif n'était de trop ce matin pour décrire la nouvelle réalité politique en Suède. Fini l'alliance de centre-droit d'abord. Ces 4 partis, conservateurs, centristes, libéraux et chrétiens démocrates, au pouvoir entre 2006 et 2014, sans le soutien au Parlement de l'extrême droite, l'alliance ne pouvait gouverner. Centristes et libéraux ont préféré rejoindre les Verts et sociaux-démocrates. Une situation inédite, mais devenue réalité grâce aux talents incontestés de négociateurs du patron des sociaux-démocrates, Stéphane Löfven. L'ancien leader syndical, premier ministre sortant, n'a eu de cesse de tenter de rassembler tous ceux qui voulaient défendre le cordon sanitaire contre l'extrême droite. Résultat, un texte de 16 pages listant 73 mesures sur lesquelles se sont mis d'accord les quatre partis. Centristes et libéraux restent formellement dans l'opposition. Stéphane Le Venn dirigera donc un gouvernement composé des sociodémocrates et des Verts. La gauche radicale, malgré son opposition au programme présenté, a voté blanc au Parlement. L'objectif toujours, tenir à distance l'extrême droite. Mais non, sans risque, l'accord négocié par Stéphane Le Venn est déjà très critiqué à gauche, jugé bien trop libéral avec la suppression de l'impôt sur les revenus les plus élevés, la libéralisation du marché locatif ou encore la réforme du droit du travail.
À 82 ans, Silvio Berlusconi reprend du service celui que tout le monde pensait définitivement hors jeu après sa cuisante défaite aux législatives de mars 2018, annoncé hier qu'il se porterait personnellement candidat pour les élections européennes à la tête de son parti. Un coup de théâtre qui, quelques heures durant, aura même réussi à occulter le concert d'annonce du gouvernement. Et pourtant, hier soir, ce sont bien les deux mesures phares de la coalition au pouvoir qui ont été approuvées. Ces deux réformes, celles portées par la Ligue d'extrême droite tout d'abord, abaissant l'âge de départ légal à la retraite, et celles par ailleurs instaurant un revenu de citoyenneté, cheval de bataille du mouvement 5 étoiles, constituaient en effet l'une et l'autre des promesses de campagne. C'est une correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
La drôle d'alliance entre les 5 étoiles et la Ligue tient ses promesses. C'est le premier constat unanime ce midi. La possibilité de partir à 62 ans à la retraite contre 67 auparavant et surtout le revenu de citoyenneté cheval de bataille des 5 étoiles. Débordant d'enthousiasme, leur leader Luigi Di Maio hier soir.
L'abbiamo fatto segnando un giorno storico.
C'est un jour historique. Le Conseil des ministres donne naissance à un nouvel État providence en Italie.
Oggi nasce
un nouvel État-providence qui aide les personnes en difficulté et les place au centre d'une révolution du monde du travail. Enfin, les citoyens qui pendant des années ont été ignorés et pressés comme des citrons par les précédents gouvernements, ces personnes reprennent une place centrale.
Certes, les sommes allouées aux revenus de citoyenneté ont été revues à la baisse après le feuilleton avec Bruxelles sur le budget, mais in fine, l'Italie met en place ce dispositif totalement novateur. Il varie de 40 à 780 euros pour une personne seule, jusqu'à 1300 pour une famille avec deux enfants. Mesure d'assistanat ? Non. Mesure de retour à l'emploi, plaide des 5 étoiles, qui s'accompagne de normes dite anti-canapé. Le chômeur recevra certains revenus, mais aussi des offres de travail et à la troisième offre rejetée, il sera exclu. C'est là que le bât blesse, commentent les observateurs les plus critiques. Comment assurer des contrôles rigoureux dans un pays où l'on joue si facilement à cache-cache avec les institutions et surtout, où trouver du travail pour tout le monde? L'Italie et sa modeste croissance comptent sur une hausse du pouvoir d'achat pour se relancer. Un pari gagné d'avance, certainement pas, mais les comptes seront faits dans plusieurs mois après les élections européennes dans tous les cas, lors desquelles la Ligue, comme les 5 étoiles, compte marquer des points auréolé de ces mesures sociales inédites.
Midi 47 sur France Culture et c'est vendredi et c'est l'invité Europe, Thomas Cluzel.
Absolument, invité aujourd'hui avec nous en studio Isabelle Jégouzeau, représentante de la Commission européenne en France. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
On va tout de suite rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, en l'occurrence le Brexit. Après le rejet massif de l'accord de retrait de l'UE négocié avec Bruxelles, Theresa May présentera donc lundi un plan B qui sera débattu, puis mis aux voix la semaine suivante, le 29 janvier. La balle est donc désormais dans le camp des Britanniques, mais du côté européen, y a-t-il des lignes rouges ?
Alors, du côté européen, on attend d'abord une décision des Britanniques. On a proposé un accord. Cet accord, il faut se souvenir comment il a été construit. Il a été construit parce que du côté de l'Union européenne, nous avions quelques priorités. Celle d'assurer la sécurité des personnes qui sont installées de part et d'autre. On a 3 millions d'Européens au Royaume-Uni et un peu plus d'un million de Britanniques dans l'Union européenne. Donc il faut que ces personnes aient une situation qui soit stabilisée. Ils sont évidemment très inquiets. On avait un autre objectif qui était d'assurer que le marché unique restait dans son intégrité. On avait un objectif budgétaire, puisqu'on est dans une période budgétaire jusqu'en 2020 et donc il fallait qu'on se mette d'accord, on s'est mis d'accord. Et puis on avait la question de l'Irlande où, du côté européen comme du côté britannique, tout le monde était d'accord pour que on ne remette pas une frontière à l'intérieur de l'Irlande et qu'on préserve les accords du Vendredi Saint. Du côté britannique, il y avait un certain nombre de lignes rouges aussi. Quand on a commencé la négociation avec les Britanniques, on leur a demandé « Voulez-vous rester dans le marché unique » c'est-à-dire avoir une solution un peu comme la Norvège. Réponse « Non ». Parce que le Royaume-Uni refusait un certain nombre des éléments du marché unique, en particulier la libre circulation des personnes. Donc non pour le marché unique, non pour l'union douanière. À partir de là, on a construit cet accord avec les Britanniques, celui qui était sur la table, qui était à la fois le meilleur et le seul possible pour tenir compte des demandes britanniques et des intérêts des Européens. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce projet, qui était véritablement pour nous le meilleur possible pour répondre à ces questions. Ils ont dit non. Maintenant, il est clair qu'on commence, nous, à se préparer au no deal, puisque nous sommes dans une situation où le 29 mars au soir, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne.
Alors, question le no deal, justement, du côté des États, on s'y prépare. La France, hier, a déclenché son plan d'urgence, préparé depuis avril 2018, qui comprend en fait une série de mesures législatives et juridiques. C'est le cas en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas, en Espagne, bref, un peu partout. La Commission a également son plan d'action d'urgence, Isabelle Jégouzeau.
Oui, effectivement, on prend cette possibilité très au sérieux. On y travaille depuis déjà un moment. Il y a d'ailleurs en ligne sur le site de la Commission déjà 88 fiches sectorielles, parce que secteur par secteur, on regarde ce que signifie le no deal. Et puis, on a commencé à travailler de manière très étroite avec les États membres. D'ailleurs, la secrétaire générale adjointe de la Commission va faire un tour des États pour vérifier qu'on se coordonne bien. Et puis, il y a déjà quelques mesures qui ont été prises. Par exemple, quand le Royaume-Uni sort, les citoyens britanniques sont des ressortissants extra-communautaires. Et normalement, ils doivent posséder un visa pour venir dans l'Union européenne. Comme c'est quand même le Royaume-Uni qu'on les connaît bien, on les a inscrits sur la liste des pays qui n'ont pas besoin de visa. Donc ça c'est fait. On travaille avec les États membres, et ça dépend des États membres, sur une base de réciprocité, évidemment. Tout ce que l'on fait est sur la base de la réciprocité avec le Royaume-Uni, pour faire en sorte que ceux qui sont sur le territoire puissent y rester. C'est-à-dire que les Britanniques qui sont sur le territoire de l'Union européenne puissent bénéficier d'un titre de séjour, qu'on puisse prendre en considération leur durée de séjour pour leur donner un titre de séjour longue durée. Donc tout ça, ce sont des choses très concrètes que l'on fait.
Et vous avez regardé de très près les transports, parce que le ciel aérien européen va également être bouleversé.
Alors, on a regardé tous les domaines. Si vous prenez les 88 fiches, ça touche la question des financières, ça touche de
mais
très...
Mais la priorité étant un peu les citoyens,
sur les transports,
il y avait les transports.
Alors, le transport, évidemment, parce que les transports, voilà. Alors, sur les transports, par exemple, le transport aérien, le Royaume-Uni sort du ciel unique, c'est-à-dire la possibilité pour les compagnies aériennes d'avoir l'ensemble du transport aérien comme marché. Donc on a mis en place un système pour permettre par exemple aux compagnies d'assurer la traversée de la Manche, mais ils n'auront plus accès au ciel unique. Donc on assure la continuité basique, mais c'est pas la même chose d'être dedans et d'être dehors.
Alors faute de consensus, donc la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne fin mars, sans accord, ou alors sera obligée de repousser la date de sa sortie de l'Union, avec à la clé soit un nouveau référendum, soit des élections législatives. Mais au niveau des délais et du calendrier, il y a un risque tout de même. Et notamment, la Grande-Bretagne pourrait finalement participer aux élections européennes de mai. C'est une infox ou c'est réellement envisageable?
Alors, la balle est complètement dans le camp des Britanniques. Normalement, le 29 mars au soir, les Britanniques sont à l'extérieur de l'Union, et évidemment, ils perdent leur commissaire, ils perdent leurs députés, ils ne sont plus dedans. Donc ça, c'est très clair, et les Britanniques le savent très bien. Si on n'a pas d'accord, c'est un no deal, et le 29 mars au soir, c'est terminé. Après, on va voir ce qu'on vont nous dire les Britanniques la semaine prochaine. Est-ce qu'ils font bouger leur ligne rouge? Est-ce qu'ils déclenchent des élections? Est-ce qu'ils demandent un délai? Alors, s'ils demandent un délai, il faut que les 27 soient d'accord pour leur accorder. Dans quelles conditions? Est-ce qu'ils retirent l'article 50? Ça fait partie des possibilités, mais enfin, politiquement, c'est très compliqué. Donc, c'est à eux de décider. Mais le calendrier est très clair. S'il ne se passe rien, le 29 mars au soir, les Britanniques sont dehors et c'est un no deal. Et de toute façon, entre le 23 et le 26 mai, il y a des élections européennes. En France, c'est le 26 mai et nous aurons derrière un nouveau Parlement.
On a bien compris. Merci Isabelle Jégouzeau, donc représentante de la Commission européenne en France, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grolier. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest et un ciel généralement gris à l'exception de quelques poches d'éclaircies de la Normandie au centre et au nord. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.